Bien, c'est toujours une joie pour nous de nous retrouver parmi vous à la rue Sonara. Alors, avant d'ouvrir la parole ensemble, j'ai des salutations à transmettre. Alors, pour ceux qui ont connu Erika, Erika donc est maintenant à Vichy, donc elle est même dans le même groupe de quartier que nous. Et mercredi soir, elle m'a dit, il faut absolument transmettre mes salutations aux frères et sœurs de la rue Sonara. Donc je le fais parce que je sais qu'elle va me demander en rentrant si je... hein, vous la connaissez. Et puis il y a aussi notre fils Yvan, pour ceux qui l'ont connu quand il a fait ses études ici, donc quand il a su qu'on venait là, et il m'a demandé de transmettre ses salutations. Donc voilà, c'est fait. Et donc c'est aussi mon privilège d'ouvrir avec vous la parole de Dieu ce matin. Je vous propose de regarder avec moi la conclusion de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est une lettre qui se termine par une dernière prière. Hein, il y a plusieurs prières dans la lettre, mais la dernière prière, donc c'est ça que nous allons regarder. Et c'est une prière qui remet en perspective toutes les exhortations que Paul a déjà données dans cette lettre. C'est une prière qui invite aussi ses lecteurs à regarder au Seigneur comprendre comment sa volonté va devenir une réalité dans leur vie. Et donc, nous allons faire la lecture de ces trois versets. C'est donc la conclusion de 2 Thessaloniciens. Et je me rends compte que je suis dans 1 Thessaloniciens, donc je trouve le verset. Voilà, au verset 16, que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix, de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors je vais faire un petit retour en arrière dans la première lettre parce que j'aimerais vous faire remarquer donc comment les conclusions se ressemblent un peu dans ces deux lettres. Dans la première lettre, donc l'apôtre Paul a posé en particulier ce grand principe, hein, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. C'est une déclaration qui nous ouvre des perspectives intéressantes, qui devrait nous stimuler, mais qui pourrait aussi nous inquiéter, vu ce que nous sommes, hein, vu nos défaillances, hein, nos chutes de chaque jour, comme on chante quelquefois. Et Paul comprend cela, et donc dans cette lettre, à la fin, et sous l'inspiration de l'Esprit, il ajoute cette prière, déjà, que le Dieu de paix, lui-même, vous rende entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il ajoute encore ce commentaire, celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui accomplira cela. Et donc, comme je disais à l'instant, l'apôtre nous donne les clés pour comprendre comment ce que Dieu veut pour ses enfants devient réalité dans notre expérience. Tout ce que Dieu veut pour nous nous renvoie à notre besoin de lui et à notre dépendance à son égard. Et Paul va donc employer la même stratégie à la fin de la deuxième lettre, donc on revient à notre lecture, il écrit à des Thessaloniciens confrontés à des difficultés, hein, le contexte assez hostile, on le voit dans le début de la lettre, et il y a aussi deux courants de pensée qui ont séduit quelques-uns dans l'Église et qui sont de nature à troubler tout le monde. Et la prière de Paul sera donc que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Qui n'aspire pas à vivre en paix? Je crois que la paix fait partie de nos besoins essentiels. Mais comme pour tout ce qui contribue à notre satisfaction, nous sommes constamment sollicités par des offres alléchantes de paix, mais qui viennent de sources qui ne sont pas le Seigneur de la paix. Des offres qui tentent même de nous détourner de ce Seigneur de la paix vers des substituts. Et donc, j'aimerais partager avec vous ce matin ce qu'on peut comprendre de cette question de la paix dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et la première question sera, mais qu'est-ce que la paix ? Quand on doit définir quelque chose, c'est souvent intéressant de commencer par ce que la chose n'est pas. Et donc on va commencer par ce que la paix n'est pas. La paix n'est pas une chose. La paix n'est pas une commodité qu'on peut engranger et mettre en réserve pour le jour où on en aura besoin. Elle fait partie de ce qu'on appelle les entités non comptables. Il n'y a pas de moyen de mesurer la paix. Ça ne se mesure ni en litres ni en kilos. Il n'y a pas d'unité qui permette de la mesurer. Et pourtant, vous avez peut-être été tenté, comme moi, parfois en sortant du culte d'ailleurs, de vous dire, ça y est, j'ai fait le plein de paix pour toute la semaine. Et puis le lundi matin, quand on se réveille, on se rend compte que le niveau de paix est déjà en baisse parce qu'il y a ce problème-là, il faut absolument le régler aujourd'hui. Et puis, voilà, n'oublie pas que mercredi, il y a ce rendez-vous, etc., etc., et toutes les choses qui nous tombent dessus. Au début de cette lettre, Paul fait le constat de l'état des choses à Thessalonique et au sujet de la vie de cette communauté. Et c'est très positif. Il parle de foi qui progresse, il parle d'amour qui augmente, de bonnes choses. Et puis, il ajoute, « Je suis fier de vous à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » Persévérance et foi, mais au milieu des persécutions et détresses. Donc, il semble que pour la plupart d'entre eux, la paix de Christ nourrissait leur persévérance, malgré toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, comme nous. Et malgré aussi ces difficultés qui surgissaient dans l'Église, entre eux. Mais certains pouvaient se demander, et je pense que certains se demandent encore aujourd'hui, si la paix ne devrait pas impliquer l'absence de tout conflit, l'absence de tout désaccord, l'absence de pression extérieure, de menaces, de persécution morale ou matérielle. Quelle est ma définition personnelle de la paix? C'est tellement facile de penser, ou même parfois de dire, je serai vraiment en paix si. Et derrière ceci, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. Vous aurez peut-être des idées personnelles d'ailleurs à rajouter, mais je serais vraiment en paix si tel problème était réglé, si telle prière trouvait son exaucement. Je serais vraiment en paix si cette personne me demandait pardon. Je serais vraiment en paix si tout le monde était de mon avis sur les questions qui sont en débat, etc. Et je pense que vous aurez vos propres idées de ce qu'on met derrière ce « si ». Si seulement ! Mais voilà que l'apôtre évoque dans sa prière la paix en tout temps et en toutes circonstances. Donc il y a quelque chose là à creuser, il me semble. Et donc j'aimerais parler maintenant des fausses pistes par rapport à la paix. Dans le premier chapitre de cette lettre, nous trouvons une mise au point au sujet de ce qu'on appelle le « déjà » et le « pas encore » de notre salut. Nous vivons entre la croix et le retour, une période de transition. On dit parfois « nous vivons à la croisée des âges ». C'est une période où ça nous vaut de vivre une certaine tension. C'est inévitable. Il faut accepter cette tension, puisque nous vivons dans ce temps-là. Mais c'est aussi inévitablement inconfortable. Ça nous embête parfois. Et la première fausse piste, donc, serait d'assimiler la paix au confort. Mais si Dieu promet et donne la paix, il ne garantit pas notre confort dans ce monde. Et nous vivons au milieu d'une culture qui fait du confort un substitut pour la paix qui lui manque. Et cette paix manque parce que nos contemporains excluent le Seigneur de leur réflexion. Et sans Dieu, on ne peut pas connaître cette paix que lui seul peut donner. Première fausse piste, donc. La paix, ce n'est pas le confort. Puis il y a le danger de puiser une sorte de paix dans l'absence de conflits ouverts. Après tout, nous ne sommes pas persécutés comme nos frères et sœurs en Iran ou en Corée du Nord, en Chine, dans bien d'autres pays. Et que nous pouvons être contents quelquefois quand notre entourage est bienveillant avec nous. Même quand certains reconnaissent les effets positifs de notre foi, de notre engagement avec le Seigneur, « Ah, mais toi, au moins, t'es honnête. » C'est au moins l'avantage de travailler avec un chrétien. On peut se fier à sa parole. Et puis, il y a même des penseurs qui ont parlé de l'utilité sociale de l'Évangile. Alors, c'est quoi l'utilité sociale de l'Évangile? Ça veut dire que les chrétiens ne sont ni casseurs, ni terroristes, en général. Mais là, ce qui m'est revenu, ce qui me revient toujours à l'esprit, c'est ce que Jésus dit dans Luc 6 à ses disciples, « Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. » La caractéristique des faux prophètes, c'est qu'ils disaient ce que les gens avaient envie d'entendre. Et le Seigneur ne nous demande pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'ailleurs, l'approbation du monde, ce serait une paix bien fragile. Parce que le regard que la société porte sur nous est changeant. Et peut vite devenir méfiant, moqueur, ou carrément hostile. Et alors, et comme on l'a entendu ces derniers temps, on nous sommes de rentrer dans le rang, de nous mettre à la page, d'adopter les valeurs de notre siècle, et d'arrêter de nous faire remarquer, si nous voulons qu'on nous fiche la paix. L'approbation du monde n'est pas la source de notre paix. Et puis il y a encore, c'est quelque chose qu'on trouve dans cette lettre, la tentation de sacrifier la vérité pour avoir une sorte de paix dans l'Église. Faire semblant pour avoir la paix. Alors à Thessalonique, à l'époque, quelques-uns s'étaient mis à faire la promotion d'une nouvelle révélation. Ils disaient, le jour du Seigneur est déjà là. Alors évidemment, tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon-là et ça posait beaucoup de questions. Ces gens disaient, non mais si vous souffrez comme chrétien, c'est pas parce que vous vivez au milieu d'un monde hostile, hostile à Dieu qui refuse de le connaître, comme Paul l'enseigne. Nous avons compris autre chose, c'est la fin est arrivée et le jugement commence. Et Paul va s'occuper, il va devoir s'occuper dans cette lettre justement de ces idées-là. Alors, il ne les balaie pas d'un revers de la main, il s'en occupe sérieusement et il prend au sérieux la confusion qui brouille la pensée et qui trouble les cœurs. La paix est attaquée par ces idées. Et donc, Paul répond, il raisonne, il enseigne, il éclaire les zones d'ombre. Voilà ce qui doit encore arriver avant la fin. Mais il n'a pas peur d'affirmer que ces idées nouvelles, entre guillemets, sont fausses et qu'elles égarent les chrétiens dans leur foi et dans leur marche. Paul milite en faveur de la vérité. Donc, vouloir construire une sorte de paix, paix communautaire en tolérant l'erreur, ce serait ici la branche sur laquelle nous sommes assis, puisque l'unité des croyants se construit sur la foi transmise aux saints une fois pour toutes, comme Jude nous le dit dans son épître. Et ce slogan qu'on entend partout aujourd'hui, « À chacun sa vérité », c'est un slogan qui a été inventé par notre adversaire, le diable. Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans ce sens-là. Et puis, il y a enfin une autre fausse piste empruntée par quelques-uns dans cette église à Thessalonique. Alors, il s'agit du comportement adopté par ceux qu'on désigne généralement comme les rebelles paresseux. Vous savez, ceux qui ne voulaient plus travailler et dont Paul dit qu'ils ne mangent pas non plus. Alors, ce qui se passait là à Thessalonique nous rappelle qu'il y a des tempéraments contestataires même parmi les enfants de Dieu. À Thessalonique, cette contestation de l'enseignement apostolique s'est fixé sur le rapport au travail. Mais ça peut se fixer sur bien d'autres aspects de la vie chrétienne. Et au cours de l'histoire de l'Église, on pourrait trouver bien des exemples. Dans leur contexte, évidemment, dans la culture grecque de l'époque, le travail, surtout manuel, était méprisé. C'était pour les esclaves, ça. Et puis, c'était aussi un contexte où chez les chrétiens les plus aisés, il y avait toujours moyen de trouver un repas gratuit. Il suffisait d'arriver au bon moment de la journée. Tu as mangé? Ah ben non. Ben assieds-toi, prends une assiette. Mais à travers les siècles, ce penchant contestataire a ciblé beaucoup d'autres domaines de la vie chrétienne. On a connu un courant qui exaltait le célibat et déconsidérait le mariage. Mais on a aussi connu le contraire. Et bien d'autres attaques sur cet enseignement qui nous est donné sur comment vivre devant le Seigneur. Le ressort de ce type de contestation me semble être le désir de se valoriser en se démarquant par la promotion d'une idée particulière et en général minoritaire. On tente de puiser une forme de paix pour soi-même, plutôt une satisfaction personnelle dans le fait de croire que nous avons compris ce que les autres ignorent. Ça fait gonfler. Mais c'est une fausse paix. Alors ici, juste pour faire la différence avec la piste précédente, ici, on ne conteste pas les bases de l'Évangile. On ne met pas en cause l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort pour effacer notre culpabilité, sa résurrection comme gage de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Non, c'est pas ce qu'on croit qui est attaqué. Mais on remet en cause l'enseignement de Jésus et de ses apôtres par rapport au comportement que la vie nouvelle doit induire chez tous ceux qui ont saisi la grâce. Et cela ne peut que jeter le trouble dans l'église locale. Se croire plus fort que les apôtres, ce n'est pas une bonne piste pour vivre en paix. Mais maintenant, on va regarder le plus important, la vraie source de notre paix. Il m'a semblé, en réfléchissant à ce texte, que la prière de Paul, que nous avons lue au début, prend appui sur l'enseignement de Jésus lui-même. Alors, il faut reconnaître que l'évangile de Jean n'avait pas encore été publié quand Paul a écrit aux Thessaloniciens. Mais Paul connaissait l'enseignement de Jésus qui avait été transmis oralement jusque-là. Je pense donc, par rapport à sa prière, à tout ce qui est consigné dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Je vais vous afficher juste quelques versets extraits de ce chapitre. Jésus annonce d'abord que lui et son Père viendront établir leur demeure en celui qui l'aime et lui obéit. Première étape. Ensuite, il va évoquer le rôle du Consolateur, du Saint-Esprit qui viendra rafraîchir leur mémoire de tout ce qu'ils avaient reçu, tout ce qui a été enseigné et qui nous enseigne encore aujourd'hui. Et après cela, il enchaîne sur cette grande promesse au sujet de la paix, que la plupart connaissent déjà par cœur, quand Jésus dit, donc, « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Et à travers cet enchaînement dans la pensée de Jésus, nous nous rendons compte que la vraie paix est une présence. La présence du Père et du Fils par l'habitation de l'Esprit en chacun de nous. Et Paul ne dit pas autre chose dans sa prière. En fait, c'est là que les deux choses se rejoignent. Alors, selon un mode de communication très hébraïque, Paul va, dans cette prière, formuler une même vérité de deux façons différentes, pour qu'on la comprenne bien. Et nous lisons donc d'abord, je le relis, « Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toutes les manières. » Puis, il reformule la même pensée, mais en d'autres mots, « Que le Seigneur soit avec vous. » La paix de Dieu, la paix promise par Jésus, à ses premiers disciples et à ses disciples parmi tous ceux qui sont venus à lui, qui ont reçu cette lumière dans tous les siècles. Cette paix n'est pas l'absence de toute hostilité, ni l'absence même de débat théologique dans l'Église, ni l'absence de toute contestation au sujet de comment l'Évangile doit s'incarner dans nos faits et gestes. La paix de l'enfant de Dieu n'est pas une absence de quelque chose. C'est la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et cette présence est promise en tout temps et dans toutes les situations. Mais les promesses se saisissent par la foi. Et c'est là que nous nous retrouvons devant notre propre responsabilité. Les promesses se saisissent par la foi. Ça me rappelle ce que disait Spurgeon, ce prédicateur anglais d'un autre siècle, qui comparait les promesses de Dieu à des chèques. Et il disait, les chèques, pour les toucher, il faut les porter à la banque. Et les promesses du Seigneur, il faut venir devant le Seigneur avec ses promesses en disant, Seigneur, c'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui et tu l'as promis et je saisis ta promesse par la foi. C'est vrai qu'il y a eu, il y en a encore parfois, des chèques en bois, mais il n'y a pas de promesse divine en bois. Le Seigneur honore toujours sa parole. J'aimerais juste, avant de conclure, vous faire remarquer ce petit mot « tous » qui figure deux fois dans la conclusion de la lettre. Alors, ceux qui souffrent de l'hostilité ambiante ont besoin de la paix, on le comprend. ceux qui sont troublés aussi par les idées nouvelles, entre guillemets, qui circulent, ont aussi besoin de la paix. Mais ce tous inclut forcément aussi ceux qui s'égarent dans ce qu'ils croient. Ils font partie de ce tous. Et ceux qui ont du mal aussi à se soumettre à l'enseignement des apôtres quant au comportement qui honore Dieu. Tous, ça veut dire tous. Il n'y a pas, personne n'est exclu. D'ailleurs, on pourrait penser aussi que c'est en entretenant et en approfondissant leur communion avec le Seigneur que les égarés et les contestataires pourront retrouver une vraie paix intérieure et contribuer de nouveau à ce climat de paix que Dieu veut voir dans son Église. Et pour chacun, chaque jour, c'est dans notre communion avec le Seigneur Jésus lui-même que nous puiserons la vraie paix. La paix qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des circonstances, qui dépend de la grâce de Dieu. Car le Seigneur est avec nous tous. Alors, il y a un petit verset là sur lequel on glisse en général quand on lit les Épîtres. Hein, c'est le verset où Paul parle du fait qu'il écrit quelques lignes lui-même. Hein, il va prendre la plume de la main de son secrétaire et il va signer. Et bon, c'est vrai, souvent, ben, ce verset-là, on passe dessus. Mais en fait, ça encore, il me semble, un rapport avec la paix. Parce que authentifier de cette manière son enseignement, c'est encore un élément qui favorise la paix de ses lecteurs. Ils peuvent se reposer sur la vérité, clairement exposée et avec autorité. Et nous aussi, puisque nous avons entre les mains cette parole de Dieu. Ça contribue aussi à notre paix. Alors, cherchons aussi à renforcer notre paix par notre lecture, notre étude de cette parole. Donc, pour finir, rappelons que la paix est un fruit de l'esprit et un don de la grâce. Et elle est pour tous. Le Seigneur est avec nous à chaque instant. Puisse notre foi saisir la réalité de cette présence qui est la vraie source de notre paix. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole nous aide à rester alignés sur ta pensée et nous garde de nous laisser distraire par la pensée du monde qui voudrait nous attirer vers d'autres sources de paix, mais qui ne peuvent pas nous satisfaire et qui ne sont pas fiables, qui ne soutiennent pas le cœur dans les moments difficiles. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour la paix donnée. Aide-nous à nous saisir de cette promesse, jour après jour. Aide-nous aussi à nous rappeler que c'est en entretenant notre communion avec toi que nous pouvons renouveler cette paix, instant après instant. Merci parce que tu es là, comme tu l'as promis, avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te bénissons encore, Père, pour le don de Jésus et pour le don de la paix à travers son sacrifice sur la croix et la présence de son Esprit dans tous nos cœurs. Merci. Amen.